Bonjour, Raymond Richard au micro pour l'émission Mosaïque. Alors il y a autour de ce micro Jean Botvinny pour les Juifs, Catherine Bianchi pour l'Église luthéro-réformée, Jacqueline Hulot pour les catholiques, Jean-Pierre Dubreuil du Cercle Laïque pour les agnostiques, Alain Jeunesse pour les agnostiques humanistes. Alors dans l'émission d'aujourd'hui, nous nous interrogeons, après avoir évoqué dans notre dernière émission la laïcité qui permettait aux gens de pouvoir pratiquer leur propre religion, enfin avoir leur propre démarche, on s'est dit oui, mais chacun sa propre démarche, mais chacun tout seul dans son coin. Or, ce que nous souhaitons, c'est le dialogue, parce qu'on ne peut pas être tout seul dans son coin. Et en même temps, il y a actuellement une réflexion sur les communautarismes, les séparatismes, ou les... En tout cas, on sent bien que là, il est question des identités, donc comment faire en sorte que le vivre ensemble soit possible. Alors la première question à se poser, c'est bien quelles sont les conditions du dialogue entre ces gens différents. Voilà. Et puis, auparavant, comme toujours dans nos émissions mosaïques, il y a un petit tour autour de l'actualité. Alors, je crois, Jean, que vous aviez...
Oui, ça va tout à fait dans le thème de notre émission. Et j'emprunte pour ça ce qu'a dit un philosophe sénégalais musulman qui s'appelle Souleymane Bachir Diagne et qui a dit que l'éducation et la connaissance sont les deux grandes urgences à avoir. C'est par la connaissance et l'éducation que les gens peuvent se reconnaître. Eh bien, en partant de là, cette semaine, dans le journal, on a entendu aussi dans les radios que la culture juive a été mise au programme scolaire marocain. C'est une première, et je vous lis un petit morceau de l'article, c'est une première dans le monde arabe. Le Maroc a lancé une réforme scolaire décrite par certains comme un tsunami. L'histoire et la culture de la communauté juive vont bientôt être enseignées aux élèves de ce pays où l'islam est religion d'État. Les premiers cours en langue arabe seront dispensés au prochain trimestre, en dernière année de primaire, où l'âge des élèves tourne autour de 11 ans, selon le ministère marocain de l'Éducation nationale. Cette introduction est une première dans le monde arabe. Elle fait l'effet d'un tsunami, s'exalte Serge Berdugo, le secrétaire général de la communauté israélite du Royaume, qui a été joint par l'agence France Presse à Casablanca.
Voilà, donc là, on tient compte, même dans un pays où il y a une religion d'État, de l'autre, au point de dire, eh bien, enseignons l'histoire des Juifs du pays. Intéressant comme ouverture.
Et il parle même que ça fait office d'un vaccin contre l'extrémisme. Et en fait, la connaissance, dans nos relations les uns avec les autres, si on veut reconnaître l'autre, si on veut dialoguer avec l'autre, il faut avoir évidemment sa propre connaissance d'où on vient, c'est-à-dire nos traditions, et puis commencer à apprendre la connaissance de l'autre aussi.
Voilà, donc ça veut dire que dans les conditions du dialogue, il y a une première chose, c'est la question de l'éducation. Alain, c'est ce que tu avais, quand on préparait l'émission, tu avais évoqué ce point.
Oui, pour moi, c'est tout à fait ça. La connaissance et l'éducation, ça va ensemble. Pour se connaître, il faut avoir des contacts, des échanges, mais aussi il faut avoir des connaissances. D'où vient l'autre, pourquoi, quelles sont ses envies, quels sont ses projets, quel est son trajet, c'est très très important, et puis souvent on s'aperçoit qu'on a des points communs. On peut avoir des différences apparentes de vêtements, de langue, de plein de choses, et puis avoir des points communs. Moi je sais que les soucis qu'ont les migrants avec leurs enfants, etc., ben nous on a les mêmes. On voudrait que nos enfants ils arrivent, ils aient une situation, qu'ils puissent s'épanouir dans la vie, etc. Et souvent, à l'étranger, on pense que l'autre est dangereux. On prend l'autre souvent comme une menace, un envahisseur. Alors que c'est rarement le cas, je veux dire. En général, ce n'est pas le cas. L'autre, il faut apprendre à le connaître. Et en se connaissant, ça va beaucoup mieux. On a besoin des autres. Pour vivre ensemble, on ne peut pas vivre seul. La solitude, c'est quelque chose de terrible. On est malheureux quand on est seul, si on n'a rien à partager. Or, en fait, quand on fait un bon repas tous ensemble et qu'on peut évoquer ses projets, ses envies. Alors, le problème, après, c'est le pouvoir, la domination. Qui veut dominer l'autre? Mais à mon avis, ça se travaille, ça. On parle beaucoup, souvent, de concurrence. La concurrence, c'est pas du partenariat. Hein, justement, il faut apprendre à coopérer. Ça existe aussi dans la nature. On a toujours pris, c'est le plus fort qui gagne, et c'est le plus fort qui décide et qui commande. Mais il y a aussi des tas de systèmes où il y a des systèmes de coopération dans la nature.
C'est-à-dire une remise en cause de la méritocratie. Parce que, quand même, on a le classement, enfin, il me semble qu'à l'école, il y avait le classement, les notes, ceux qui passent les concours, et puis ça reste, il y a quelque chose aussi là qui est juste, quelque part. Mais en même temps, cette compétition, et c'est vrai aussi dans le sport, n'est pas tout à fait de la même nature que faire équipe pour avancer ensemble. Donc là, on a des approches pédagogiques différentes.
Oui, mais les deux peuvent être intéressants. De stimuler les gens en étant concurrents, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais sur bien des projets, on a aussi besoin de coopérer. À mon avis, on a besoin des deux.
Il faut le dosage.
Voilà. Après, c'est des questions d'équité, d'équilibre, de tout ce qu'on veut. Comment dirais-je ? Il y a des tas de projets où il faut partager ses connaissances. Par exemple, dans la recherche sur le Covid, sur le virus, il y a des scientifiques qui partagent leurs connaissances. Et ça permet d'avancer très très vite dans le progrès. Et puis il y en a d'autres qui les gardent pour eux et qui sont en concurrence et qui voudraient dominer le marché, si vous voulez. Voyez le truc ?
C'est vrai qu'il y a les deux aspects, mais...
Il y a les deux aspects. Les deux aspects existent.
Que l'intérêt de ce qui s'est passé pour le Covid, c'est qu'il y a quand même ces formes de coopération qui ont semblé l'emporter.
Apparemment, oui, oui, puis ça a accéléré le procédé. La concurrence ou la course, ça permet de... Chacun travaille un petit peu sa méthode pour arriver le plus vite. Et la coopération, ça permet de mettre en commun des découvertes qu'on ne peut pas faire tout seul. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux.
Mais je rebondis sur ce que tu as dit. C'est dès l'enfance, dès l'école, il faut partager. J'ai un de mes frères qui a eu des jumeaux. Et très vite, pour pas qu'il y ait de dispute, parce que c'était filles et garçons, les jouets étaient en double, tout le temps. Donc il n'y avait pas de dispute, parce que chacun avait son truc. Donc ils ne partageaient pas. Et quand les gamins ont été en âge d'aller à l'école, les gamins étaient complètement perdus, parce que comme tu dis, l'un avait le ballon, mais eux, ils voulaient se l'accaparer et le garder. Et ils ont eu du mal à s'adapter, à comprendre qu'il fallait partager et jouer avec les copains, coopérer, comme tu dis. Coopérer, échanger. Ça, c'est vrai. Et puis, le partage, depuis qu'on a lancé cette émission, qu'on ne se connaissait pas tous, mais c'était...
La 60e émission, là.
60e émission.
6 ans.
Eh bien, on a appris à se connaître, à apprendre nos différences, à s'interroger, et les liens se sont soudés entre les uns et les autres. Et c'est toujours un plaisir que d'apprendre, de s'enrichir soi-même sur l'autre, avec un grand A. Voilà.
Ça veut dire qu'il faut une écoute et du temps.
Oui, mais quoi de plus beau ? Quoi de plus beau ? De partager. On est tous différents. C'est une grande richesse d'apprendre des uns des autres. Et on grandit forcément encore plus. Et les liens se soudent de part et d'autre. Oui.
Mais je pense qu'au démarrage aussi, on a le devoir de s'informer sur ce qu'on avance.
Donc une exigence de compétence et de vérité.
Oui, oui.
Quelque chose.
Oui, c'était un petit peu pour rebondir sur ce que vous avez dit sur l'école. Il y a, il me semble, toujours la même opposition entre l'individu et le groupe. l'individu qu'on veut flatter maintenant, on veut nous faire acheter ceci, cela, on nous pousse à réagir en tant qu'individu, mais on ne peut pas vivre comme des individus, on peut vivre que comme des groupes. Mais les groupes eux-mêmes, ils sont organisés de telle sorte à faire pression sur l'individu. Et donc on va retrouver à travers l'histoire et à travers notre vie permanente, comme ça, cette différence-là. Ça rejoint ce que vous disiez avec le fait de se jalouser, d'essayer d'être plus fort que l'autre, etc., etc. Et là, il y a deux conceptions de la vie, entre l'individu et puis le groupe. Et
ce que vous disiez tout à l'heure, ça démarre simplement par la relation très simple, quotidienne.
Oui, moi je pense que vivre ensemble, avant d'avoir la capacité d'aborder des discussions portant sur des problèmes un peu profonds, ça doit passer par des choses très simples, d'entraide.
Hein. La politesse.
Voilà, la politesse, bien sûr, l'entraide, hein, on se donne des coups de main, comme on dit, et puis aussi la possibilité de se rencontrer dans des moments conviviaux. Hein. Les gens ne s'ouvrent pas aux autres facilement. Les échanges sur des problèmes sérieux, profonds, ça doit être... Un deuxième temps, voilà, je dirais, peut-être est-il nécessaire que ça soit organisé. Bon, il peut y avoir des discussions de personne à personne, mais à partir du moment où on est en groupe, je pense qu'il faut le faire dans un cadre comme celui-ci, voilà, hein, là c'est clair, chacun sait pourquoi il est là, et ce qu'il peut dire... sont des choses qui, bien sûr, sont très profondes. Mais pour arriver à ça, ce n'est possible que parce qu'il y a l'adhésion à l'idée d'échanger sur des problèmes fondamentaux pour la plupart d'entre nous.
Ça suppose une certaine connaissance.
Ah, de toute façon, la connaissance, c'est tout à fait nécessaire, oui. Mais... Le problème, c'est d'avoir la bonne connaissance, pas...
J'ai eu la chance de faire du scoutisme, que ce soit petites ailes, éclaireuses ou cheftaines, etc. À chaque groupe d'âge, enfin, on avait une devise, aller vers les autres, s'occuper de son prochain, prendre soin de son prochain. Ça c'était, d'abord on l'a reçu dans notre éducation en famille, mais c'était d'aller vers les autres, on ne connaissait pas. On faisait des camps d'été à 30 ou 40 enfants, on ne se connaissait pas. Et bien, il fallait aller vers les autres et les aider, s'entraider, comme dit Jean-Pierre. Ça, c'est
un être extraordinaire, apprendre à vivre. Donc, le fait de vivre vers les autres et d'échanger, on prend le risque de s'exposer à l'autre. Et donc, il faut une bonne dose de confiance aussi. Avoir oui, la confiance les uns vis-à-vis des autres.
Oui, parce que chaque être humain, pour moi, a une valeur, quelle qu'il soit. Chaque être humain a sa propre valeur et est important d'être accompagné au maximum.
C'est-à-dire que pour le vivre ensemble, il faut reconnaître la dignité de la personne en face de nous. Et si, quelque part, on m'a infusé l'idée que j'étais supérieur à l'autre, on peut faire... On peut faire allusion à beaucoup de choses, hein, l'Asie, entre autres, mais là, en ce moment, à ceux qui déciment les Ouïghours, par exemple, à partir du moment où on a inculqué qu'on est supérieur à l'autre, on dévalue évidemment l'autre et on peut faire ce qu'on veut avec l'autre. Et donc le dialogue entre nous, mais entre les Parisiens et puis les gens des banlieues, les gens des banlieues sont dévalorisés, apparemment, par les gens du 16e. Et à partir du moment où ils sont dévalorisés, naturellement, ils ont aussi de l'instruction, de l'éducation, et donc ils savent qu'ils peuvent utiliser des moyens de réponse à ça. Mais ça peut aller justement jusqu'à la guerre, jusqu'à l'assassinat.
Oui, parce que Parce donc, que
c'est une condition sine qua non de voir que la personne qui est en face de moi, elle est aussi digne que moi de vivre.
Donc c'est ce que vous voulez. Puisque mais, nous sommes dans une émission sur le dialogue interreligieux, là on perçoit qu'il y a à respecter la réalité et les idées de l'autre.
Pour reprendre quand même votre idée aussi, il y a un autre élément aussi, c'est la compréhension des mots. C'est quelquefois, j'ai vu des personnes après dire « Ah ben tu m'as dit ça, ben oui mais je ne l'ai pas dit dans ce sens-là. » Alors ça
c'est la traduction.
Voilà.
La traduction de la Bible. Oui. Les différentes traductions.
D'où poursuivre le dialogue pour creuser et apprendre de l'autre. Voilà.
Donc l'importance, effectivement, de s'expliquer. Oui. Donc là, on posait la question des conditions du dialogue et de fait, on voit qu'il y a un certain nombre de règles, un cadre, des règles, le respect de l'autre et que l'éducation joue un grand rôle. Alors, on se posait la question aussi, pourquoi aller vers l'autre, en fait ?
C'est une bonne question, effectivement.
Parce qu'un certain nombre de personnes se disent, moi, pas besoin.
Non, mais si, c'est important d'aller vers l'autre, parce que rester tout seul, c'est quand même se condamner à beaucoup de douleurs. Hein. On n'est pas fait pour vivre seul. Mais deuxièmement, je crois qu'effectivement, ça exige une disposition d'esprit d'ouverture, d'acceptation. Là, plusieurs fois, le mot « écoute » a été employé, on écoute pour comprendre, hein, c'est-à-dire comprendre profondément ce qui motive la façon d'être de la personne avec qui on est en relation. Alors, je crois que si on va vers les autres comme ça, c'est que on a en soi, alors ça vient d'où ? Moi, j'en sais rien, est-ce que ça vient comme ça, de l'éducation, de choses. Mais je crois que la plupart des gens ont ce besoin d'aller vers les autres et de communiquer, d'essayer de se comprendre.
Oui, parce que dans la période de pandémie, ce mot solitude a beaucoup d'importance.
Oui, là on perçoit que beaucoup de gens sont malades.
Et au point de vue négatif. Au point de vue négatif. Hein.
Oui. Je vois dans mon village, cette pandémie a fait resserrer les liens. Parce que d'abord le téléphone a plus que chauffé. Non, et prendre des nouvelles des personnes isolées, justement, de maintenir un lien, un contact, aller faire des courses ou autre, les liens se sont considérablement ressoudés entre les personnes isolées, alors qu'au quotidien,
je voulais simplement souligner l'emploi du mot solitude actuellement, parce qu'on n'en parlait pas tant en temps ordinaire. Parce qu'elle existe. Elle existe depuis. Je suis infirmière, je travaille en EHPAD. Avant la pandémie, j'étais témoin de solitude de certaines résidentes.
Et ces résidents recherchaient la solitude ou quelquefois recherchaient le contact?
Il y a des périodes dans la vie.
Il y a des périodes. Et on a besoin de. Oui, c'est ça, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un ou l'autre alternativement.
Oui, parce que par moment dans la vie, tu as besoin de souffler. Hein. Oui. D'ailleurs, quand on parle de désert, il y a de plus en plus de gens qui font des périodes de solitude, appelez ça solitude, retraite, pèlerinage, je ne sais pas quoi, mais c'est encore une réalité, ça.
Ah ben, oui, mais alors, il y a deux sortes de solitude. Vous avez la solitude que vous avez choisie, c'est votre envie, c'est votre besoin, et il y a celle que vous subissez. Et dans les EHPAD, il y a beaucoup de personnes âgées, souvent des femmes, qui souffrent de grandes solitudes. Personne ne vient les voir, personne ne les appelle, ils ont besoin de servir à rien. Donc, la solitude, c'est quand même un gros drame de notre société. Excusez-moi.
Alors, c'est l'indifférence, en fait.
Voilà. Alors, on peut avoir des moments de solitude. Moi, j'aime bien le bateau. Bon, ben, les gars, quand ils font des croisières, quand ils font le tour du monde, ils sont seuls pendant plusieurs semaines. Hein.
Oui.
Mais ils l'ont choisi, ils l'ont voulu. Les alpinistes, c'est pareil. Les gens qui traversent le Sahara, enfin, qui font des expéditions, les aventuriers.
Mais c'est une autre notion importante.
Voilà. C'est parce qu'ils ont, ils ont confiance, ils ont un projet, ils ont, ils ont préparé leur voyage. Alors que bien souvent, les gens sont seuls. Hein. Moi, j'ai eu ma maman pendant un moment, elle était seule chez elle. Et bon, alors nous, on allait la voir de temps en temps, mais pas assez. Et des fois, elle disait, mais je vais au boulanger, j'ai pas besoin de pain, c'est juste pour parler à quelqu'un. Ben, c'est terrible quand les gens vous disent ça. C'est-à-dire, ils sont tout seuls, ils n'ont personne à parler. Alors je disais, mais maman, tu joues pas aux cartes, il y a des dames qui jouent aux cartes, tu vas pas au spectacle, il y a des gens qui vont au spectacle. Enfin, j'essayais de lui dire... Voilà, bouge-toi, fais quelque chose.
Et ça existe aussi dans la vie active, parce que quand je travaillais, je me rappelle d'une collègue qui me disait, quand le vendredi soir, quand je pars, je ne parle pas, je ne rencontre personne avant lundi.
Ben oui, c'est...
Parce que comme vous dites, elle le subissait peut-être, mais et puis elle ne faisait peut-être pas aucun effort aussi pour aller vers.
Je voudrais citer un mot de, il me semble que c'était Elie Wiesel qui a dit que c'est pas la jalousie qui a fait tuer Abel, qu'a tué Abel, c'est pas par jalousie, c'est par indifférence.
Donc, c'est peut-être une
si
des
on
clés,
est indifférent aux autres, quelle que soit la raison de l'indifférence, hein, on peut se sentir supérieur, mépriser l'autre, etc. Et c'est l'indifférence, et l'indifférence de ces personnes dans les EHPAD est importante, effectivement.
Ah bah, oui, l'indifférence, c'est terrible. On ne peut pas rester indifférent quand on voit les migrants qui meurent en mer et que ça, bêtement. Le moindre des choses, c'est au moins d'essayer de les secourir. Et puis, enfin, d'essayer de leur proposer des solutions, quelque chose. Enfin,
et là,
on ne peut pas rester indifférent aux valeurs du monde. Moi, je pense que c'est ça.
On retrouve l'opposition entre des gouvernantes qui refusent,
bien sûr.
Qui refusent d'aller porter secours à des individus.
Voilà, chacun se repasse le mistigris. Allez, vas-y. C'est pas à moi d'agir, c'est plutôt à toi.
Oui.
Il y a de l'égoïsme.
Alors, j'allais dire ça, égoïsme, mais presque protectionnisme, pour ne pas avoir se mouiller, avoir d'ennui, enfin, se protéger, quoi. C'est terrible, ça.
Ben, c'est terrible aussi, parce qu'en même temps, c'est électoraliste. On sait qu'aider les autres, ça coûte, ça veut nécessiter des moyens, des efforts. Et si on ne voit pas l'intérêt des autres, on dit on n'en a pas besoin. D'accord ? Et on soigne son électorat...
Et on crée des normes.
C'est terrible.
On crée des normes.
C'est terrible.
Des normes dans lesquelles on doit être. Et moi qui suis un individu, je n'ai pas forcément envie toujours d'obéir aux normes qui sont créées. Il y a une nouvelle norme que le Conseil européen vient de donner, c'est que finalement, les États peuvent interdire maintenant l'abattage rituel.
Oui.
Ça vient de tomber. Les États ont la liberté de faire des lois pour interdire chez eux l'abattage rituel. Bon, pour prendre cet exemple religieux, hein, donc les musulmans et les juifs, évidemment, ne sont pas très contents, mais d'obéir à une norme édictée par un ensemble sur des individus. Vous avez Vichy qui a fait ses normes et les individus qui ont réagi.
Ah ben, d'accord.
Très peu en résistance, beaucoup en...
D'accord, il faut respecter la loi à condition que la loi aussi elle corresponde à son époque et aux besoins des gens. Parce que l'apartheid, c'était une loi, l'esclavage, c'était une loi, etc., etc. Je veux dire.
Donc il y a les lois qui oppriment.
Voilà, il y a des lois qui sont contre les gens, contre l'intérêt des individus, puis il y a des lois qui vont en leur faveur, pour les aider en fait. Hein, pas pour les écraser, alors, ni les mépriser.
Tu voulais dire quelque chose?
Au niveau de notre religion, je suis catholique, donc je crois dans un Dieu Trinité, et justement... Noël, pour moi, c'est très important parce que ce Dieu s'est incarné et il a dialogué. Hein. Jésus, quand on voit les évangiles, il a vécu la vie que...
Parmi les hommes.
Enfin, il a vécu à l'époque, hein. Mais enfin, il a eu des amis, il a pleuré, il a mangé, il a été à la noce...
C'est l'homme de multiples rencontres.
Voilà.
Et il a même fait Shabbat.
Il était juif. Ne nous y trompons pas. Alors, on perçoit quand même que, eh bien, les conditions du dialogue sont exigeantes, que aller vers l'autre, c'est indispensable pour chacun d'entre nous, et pour finalement, c'est une question vitale, et que. Par contre, cela veut dire aussi que peut-être il faut risquer le conflit de temps en temps. C'était aussi un des points...
Accepter de ne pas être compris.
Voilà, accepter que...
Oui, je pense que c'est inévitable. Hein. On est dans un monde où ce que je vais appeler le mal, qui pour moi est un mystère, existe. Hein. Et qu'il se manifeste par égoïsme, par désir de puissance. Ça va contre le vivre ensemble. Hein. Et donc, le vivre ensemble risque d'être toujours en tension, hein, avec des élans vers les autres, mais aussi peut-être la nécessité de se confronter. Alors voilà, le confronter... d'une manière que, personnellement, je souhaite pacifique, à d'autres qui ont des opinions différentes et des opinions qui seraient le désir de prendre du pouvoir, de faire mal, quoi.
De dominer.
Oui, de dominer.
Donc il y a quand même l'exigence de vérité par rapport à soi-même et aux autres, et puis l'attention à l'autre, ce qui... Tout à l'heure, vous avez évoqué l'indifférence, donc l'indifférence, effectivement, serait peut-être encore plus grave que...
Oui, parce que l'indifférence, ça veut dire qu'on est supérieur à la personne en face de soi. Et ça, c'est abominable de penser ça.
Haine. C'est supérieur Pardon à la haine.
Oui, absolument. Alors que quand on va vers l'autre, alors évidemment, on ne connaît pas l'autre. Alors, ça peut très bien se passer, les relations, ou bien... comme dit Jean-Pierre, on va à l'affrontement. Mais c'est là qu'intervient le dialogue, pour essayer de comprendre pourquoi la personne pense comme ça. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours facile. Hein.
Eh bien, chers amis, nous avons évoqué ces questions du vivre ensemble, cette question de... Nous sommes en période de Noël, au moment où nous enregistrons cette émission. C'est un peu l'esprit de Noël qui veut que, de fait, l'attention à l'autre soit important et le vivre ensemble aussi.
Et l'unité.
Et donc, eh bien, on peut vous dire bonne année et puis au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Égalité et respect dans le monde entier. Mieux communiquer et nous respecter.
Tous frères et sœurs, tous frères et sœurs, s'entraider, mais surtout s'aimer.